France Culture.
La première nuit consacrée à Victor Hugo se poursuit sur France Culture. Pour nous parler de Victor Hugo, nous avons demandé à une grande lectrice de nous rejoindre dans cette nuit. Grande lectrice qui depuis toujours écrit pour ne rien oublier, dit-elle, qui écrit des livres, des romans, des histoires pour les plus jeunes et aussi pour leurs aînés. Une lectrice qui est aussi traductrice, en particulier de l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Bonsoir Valérie Zenati.
Bonsoir Alban.
Merci d'avoir accepté l'invitation que vous faisait Victor Hugo de l'accompagner dans cette nuit.
Je m'en refuse.
Si vous fouillez dans vos plus lointains souvenirs, pouvez-vous situer quand a eu lieu votre première rencontre avec Victor Hugo ?
Oui, très précisément. J'ai cette chance-là. Je pense que c'est un des premiers souvenirs conscients que j'ai. Ça doit être le deuxième ou le troisième, donc ça remonte vraiment à très longtemps. J'avais 4 ans. Je ne savais pas encore lire. Ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi, me lisait des histoires. Et nous avions un album qui s'intitulait « Cosette ». Et que je lui demandais de me lire et de me relire inlassablement. Et donc cet album reprenait l'histoire de Cosette à partir du moment où elle voit la poupée dans le village, enfin qui est chez les Thénardier, qui va chercher de l'eau dans la forêt, découvre une magnifique poupée en chemin et fait une rencontre très, très célèbre ensuite dans la forêt. Et donc ça, c'est à la fois mon premier souvenir de Victor Hugo, mais c'est aussi mon premier souvenir littéraire. Je n'ai pas de souvenir d'histoire qu'on m'aurait raconté avant celle-ci. Donc pour moi, il y a quelque chose là d'extrêmement fondateur dans la découverte de cette histoire qui n'est pas encore Les Misérables pour moi, mais qui s'appelle Cosette.
Qui est votre Victor Hugo, Valérie Zenati ? Le poète, le romancier, le dramaturge, le dessinateur ? Ne fait-il qu'un ?
Alors je pense qu'il... J'espère qu'il ne fait qu'un parce que j'aime évidemment l'unité dans la diversité des facettes d'un être. Mais je pense que de manière intime et personnelle, je me sens reliée au Victor Hugo romancier, poète et aussi à l'écrivain engagé, à l'homme politique, investi politiquement dans la vie de son pays et à l'exilé. Bon, ça fait beaucoup, mais disons que ce sont ces facettes-là en particulier.
Vous avez écrit de nombreux livres destinés plus particulièrement aux enfants ou aux adolescents. Avec cette expérience de la littérature destinée à la jeunesse, pensez-vous qu'un enfant, qu'un jeune lecteur d'aujourd'hui est capable de lire Les Misérables, que le texte, que les mots d'Hugo lui sont accessibles ?
Je pense que tout autant que la petite fille que j'étais et qui a ensuite découvert Les Misérables, après avoir découvert ce premier album pour enfants. Je suis née dans les années 70, qu'il reste une proximité avec la langue d'Hugo. Moi, elle ne m'apparaît pas comme désuète. Alors bien sûr, je sais bien que le français a évolué, et évolue encore, et a évolué depuis mon enfance. Mais il y a une perception chez Hugo si fine de l'âme humaine, de l'âme enfantine, que c'est ça son vrai langage. Et je pense qu'en ce sens, il peut être accessible à un enfant. Il existe aujourd'hui des versions abrégées des Misérables. Je pense qu'il en existait déjà à l'époque d'ailleurs. Donc j'avoue ne pas être contre les versions abrégées.
Pas plus que d'autres auteurs de son siècle, a fortiori des précédents, on sait bien que Victor Hugo est très peu lu. Depuis longtemps, si sa découverte se fait encore peut-être au collège ou au lycée, les plus jeunes connaissent souvent Hugo par un film de Disney, un téléfilm ou une comédie musicale.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu... donc c'était Le Bossu de Notre-Dame de Disney. Alors c'est un drame parfois. Moi je le vis comme ça également pour Andersen, qui est très connu également par un dessin animé. Enfin, je dis que c'est un drame parce que la beauté du texte est totalement absente de cette découverte. Et on peut découvrir une œuvre de différentes manières. Moi personnellement, je suis arrivée aussi au Misérable à travers le cinéma. Puisque ça a été une découverte tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Donc il n'y a pas forcément de règles, mais je pense que, aussi bien concernant Hugo qu'Andersen par exemple, c'est très important à un moment donné de parvenir au texte et d'avoir cette rencontre avec le texte. C'est pour ça que je disais que je ne suis pas forcément contre les versions abrégées, parce que en effet, se balader aujourd'hui avec un livre qui fait 2000 pages en folio, c'est pas forcément un rythme de lecture qu'un enfant ou un adulte, d'ailleurs, d'aujourd'hui, pourrait intégrer facilement. Mais Je crois que dans des bonnes éditions abrégées, on peut avoir cette rencontre avec le texte et ensuite se promener toute une vie dans une œuvre.
Et comment convaincre jeunes et moins jeunes d'ailleurs de le lire et par où aborder cette œuvre monumentale, Valérie Zenotti ?
Il me semble que la poésie de Victor Hugo parle encore aux jeunes d'aujourd'hui, à ceux qui la découvrent. J'en ai rencontré moi-même des jeunes qui étaient très sensibles à sa poésie. Il y a l'œuvre théâtrale aussi, qui par définition reste du spectacle vivant et donc peut permettre... Moi, j'ai vu plusieurs fois Lucrèce Borgia à la Comédie Française et des jeunes étaient là et je pense qu'ils rencontraient le texte par ce biais. Il y a le théâtre, il y a le cinéma. Aujourd'hui, on voit que dans la France du début des années 2020, un film comme Les Misérables de Ladjli fait un carton et attire tout un public au cinéma. Alors, peut-être que c'est le moment d'expliquer que ce n'est pas une adaptation des Misérables de Victor Hugo et de confronter cette nouvelle œuvre qui porte pour nom Les Misérables avec une œuvre ancienne. Donc il me semble qu'il y a des moyens très intéressants et à l'inverse de soporifiques, très vivifiants de permettre l'écoute d'une œuvre. Et Victor Hugo, on est aujourd'hui dans une période très troublé sur le plan social, avec des grands mouvements de contestation. C'est aussi l'écrivain qui a traversé le 19e siècle avec un regard extrêmement pertinent, engagé et une grande empathie pour tous ces mouvements. Donc je pense qu'au contraire, moi, il me semble toujours très actuel. Pas uniquement politiquement, mais profondément actuel. Donc je pense qu'il y a différents moyens de permettre d'arriver à lui et de ne pas l'oublier tout à fait. Ce serait tout de même très dommage.
Aujourd'hui, on dirait de Victor Hugo qu'il était un intellectuel engagé. Il y eut son combat contre la peine de mort, son engagement social, sa résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui a valu son exil, et plus tard ses appels à l'amnistie des communards. Et il fut aussi un regard qui portait loin, comme ceux d'autres penseurs, d'autres poètes, d'autres artistes de son temps, en Europe. À différentes époques, il aura soutenu la Pologne, les Grecs, comme Delacroix l'a fait Hugo aura peint avec ses mots le massacre de Chios. Et horrifié, il se sera élevé avec force contre les pogroms dont étaient victimes les populations juives à Kiev, Odessa ou Balta. Vous êtes particulièrement sensible chez lui à ce regard qui portait loin, très loin, Valérie Zenotti.
Oui, ça prouve qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans un monde ultra connecté, comme on dit, pour avoir conscience du monde, de ce qui s'y passe et se sentir concerné. Ça peut tout simplement passer par une réflexion profondément humaniste. On ne peut pas parler d'Hugo sans prononcer le mot d'humanisme. Et cet humanisme allait au-delà des frontières, se voulait évidemment universel, avec une réflexion qui part du plus singulier pour aller justement vers les foules. Et je pense que ce regard-là, je ne le comprenais pas, j'avais pas tous les outils pour le comprendre enfant, mais je le ressentais très profondément. Et donc, il m'est apparu aussi, et c'est pour ça qu'il reste important, que la littérature pouvait être la caisse de résonance d'un regard humaniste dans l'histoire, et que ce n'était pas seulement une œuvre d'homme politique ou de journaliste qui pouvait rendre compte de cela.
Vous avez voyagé, dans une autre vie, vous avez été journaliste, reporter, parfois dans des pays en guerre, en ex-Yougoslavie. À Sarajevo notamment, vous avez passé votre adolescence, votre prime jeunesse en Israël. Avez-vous pu ressentir s'il existait encore de nos jours une postérité, une influence de Victor Hugo hors de nos frontières ?
En Europe de centrale ou de l'Est, comme on dit, Victor Hugo reste une référence qui est... très souvent cité. Je ne sais pas si je pense pas que j'ai vent de quelqu'un qui est comparable à lui. Au Proche-Orient non plus. La seule chose que je sais, c'est qu'il reste en effet une référence, peut-être plus en dehors de nos frontières parfois qu'à l'intérieur, comme souvent avec les héros, les écrivains, ils partent à la conquête du monde. Mais je ne sais pas qui pourrait se être comparé à lui aujourd'hui. C'est un peu plus compartimenté quand même si on revient vers une, pluridisciplinarité dans l'art et dans le geste artistique. Pendant longtemps, on a aussi laissé tomber les grands romans épiques. C'est l'histoire de l'art et de la littérature qui veut aussi qu'il y ait des mouvements et des contre-révolutions là aussi. Mais je ne vois pas quelqu'un qui pourrait être comparé à lui.
Quel extrait de l'œuvre de Victor Hugo avez-vous choisi de lire ?
Alors précisément, le chapitre où Cosette traverse la forêt seule avant de faire la rencontre qui va littéralement changer sa vie.
Nous vous écoutons.
Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras, armés de griffes cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. Les expressions manquent pour dire ce qu'avait d'étrange ce frisson qui la glaçait jusqu'au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu'elle ne pourrait peut-être pas s'empêcher de revenir là, à la même heure, le lendemain. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Et quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains, qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. La peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir. S'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Tel était l'effroi que lui inspirait la Thénardier, qu'elle n'osa pas s'enfuir sans le seau d'eau. Elle saisit l'anse à deux mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait, penchée en avant, la tête baissée, comme une vieille. Le poids du seau tendait et roidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter, et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était un enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Et sans doute sa mère, hélas. Car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. Elle soufflait, avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible. Elle pensait avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'une heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois, la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte plus longue que les autres pour se bien reposer. Puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier. Oh mon Dieu, mon Dieu. En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur.
Pourquoi avoir choisi cet extrait, Valérie Zenati ?
Parce que j'ai le sentiment que ce passage-là, très précisément, a scellé quelque chose en moi de à la fois la confiance en la littérature et la confiance en l'humanité. Peu d'écrivains que j'ai lus enfant me semblaient comprendre aussi précisément ce que pouvait être la terreur chez un enfant. Et donc là, il y a une compréhension de ce qu'est cette terreur, une description qui est extrêmement fine et intérieure et intériorisée. Et puis dans le même temps, donc déjà cette compréhension-là me semblait sauver quelque chose, sauver de la solitude, parce que la littérature pouvait accueillir cette terreur-là. Et par la rencontre avec Jean Valjean, il y a une deuxième phase, on va dire, ou une deuxième étape de ce sentiment que quelque chose peut être sauvé, puisque quelqu'un arrive réellement et soutient et aide cette petite fille dans la solitude de la forêt. Et donc, j'ai vraiment un souvenir très précis et qui s'est étendu, parce que ce passage, je l'ai relu enfant à 4 ans, mais ensuite à 10 ans, quand j'ai commencé à lire l'intégrale des Misérables, et puis ensuite en voyant plusieurs adaptations au cinéma, et puis en retournant vers le texte, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un passage qui m'accompagnait dans cette confiance-là, qu'on pouvait avoir en la littérature pour dire, et aussi pour sauver et donc donner confiance.
Vous êtes Valérie Zenati, la traductrice des livres d'Aaron Appelfeld, et on ne peut bien sûr vous entendre lire cet extrait des Misérables sans penser à ses forêts à lui, à ce qu'il a vécu, à ce qu'a traversé enfant pendant plusieurs années, Aaron Appelfeld.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose aussi qui m'est apparu au début, dans les premières années où j'ai commencé à traduire Aaron Appelfeld, et où je me suis fait la réflexion qu'il avait lui-même été une sorte de Cosette et de Jean Valjean pour lui-même. Il a erré dans la forêt pendant la guerre, pendant les années de guerre, dans les années 40, en Bucovine, parfois seul, pas toujours, mais parfois seul, et surtout dans cette solitude quoi inouïe de l'enfant de 10 ans et qui a perdu ses parents et qui ne sait où aller, qui n'a plus de maison, qui n'a plus de toit. Et je pense qu'il a été un Jean Valjean pour lui-même parce qu'il a... Il a su à certains moments se soutenir et garder un instinct qui le tirait profondément vers la vie et la survie. Donc pour moi, il s'identifie, il se rapproche à sa manière de Cosette.
Ce passage de Cosette dans la forêt, vous le citez d'ailleurs dans Mensonge, un livre dans lequel l'histoire d'Aaron Appelfeld rencontrait Cosette et les Misérables.
Oui, ce livre s'inscrit dans une collection aux éditions de l'Olivier où on demande aux écrivains d'écrire sur leur héros et de dévoiler un autoportrait à travers cette écriture. Et lorsque je commençais à réfléchir à un livre que je pourrais proposer dans cette collection, j'ai tout d'abord pensé à Cosette pour ce passage-là et ce courage inouï, parce que là j'ai lu un court extrait, mais elle fait preuve d'un très très grand courage, elle n'a que 8 ans. Puis ensuite j'ai pensé que Jean Valjean pouvait être le héros, et finalement je suis arrivée à la conclusion que Aaron Appelfeld incarnait pour moi de manière plus proche, peut-être affectivement, cette condition de la solitude et du courage dans la solitude.
Savez-vous ce que représentait Victor Hugo pour Aaron Appelfeld ?
Je pense que il faisait partie des écrivains qui étaient connus de ses parents, que ses parents pouvaient lire, même si il cite plus souvent Proust ou Flaubert ou les grands auteurs russes, mais cette littérature-là et Victor Hugo en particulier, faisait partie d'un patrimoine littéraire d'Europe centrale aussi, bien évidemment. Et pour lui, c'est moins un modèle que d'autres auteurs français. Peut-être parce que c'est une question de style ou de voix. En revanche, pour ce qui est du regard humaniste, là, je sais qu'il le partageait totalement.
Victor Hugo est souvent présent dans vos livres, d'une manière ou d'une autre, par une référence à l'une de ses œuvres, dans Boubélé, par exemple, ou dans Jacob Jacob, à certains de ses personnages, certains de ses textes. S'y invite-t-il de lui-même sans prévenir, ou est-ce vous qui l'invitez ?
Je pense qu'il s'invite vraiment de lui-même, et j'aime le penser ainsi. Lorsque j'écris, et je ne cherche pas à avoir une intention, mais une direction, et sur le chemin qui va vers cette direction, surgissent régulièrement des silhouettes familières. Elles viennent me soutenir, elles viennent aussi faire peut-être les liens entre les livres qui, en apparence, n'en ont pas forcément de manière directe, mais qui, pour moi, en ont un.
Tantôt en flot de nuit, tantôt en flot d'aurore, c'est un extrait de L'Âne. Les mouvements entre ténèbres et lumière dans l'œuvre d'Hugo ont été souvent commentés comme une opposition, un combat. Nous l'entendrons dans les archives de Nos Nuits et la semaine prochaine, Annie Lebrun, qui au lieu d'un combat voit un noir des ténèbres dont procède la lumière comme toute chose de son œuvre. Ce noir, les ténèbres, les abîmes des êtres et de l'univers sur lesquels se penche Victor Hugo, est-ce là, selon vous aussi, qu'il faut chercher l'épicentre de son œuvre ?
Oui, certainement. Certainement, on peut penser au Caravage quand on lit certains passages chez Hugo. Il faut pas oublier qu'Hugo, c'est quelqu'un qui a vu mourir ses enfants avant lui, les uns après les autres et tout au long de sa vie. Alors là non plus, il s'agit surtout pas de faire une sorte de psychanalyse sauvage, mais je pense que quelqu'un qui parvenait à contenir autant du monde, des êtres, et à exprimer à ce point à la fois la lutte intime contre le désespoir et la lutte collective, ne pouvait pas ne pas avoir au fond de lui justement une sorte d'épicentre très intime et qui nous est peut-être aujourd'hui encore inaccessible malgré toutes les études qui ont été faites sur Hugo et tout ce qui a été écrit, qui nourrissait ce rapport à l'obscurité à travers la lumière de l'écriture. Parce que chez lui, on sent bien que l'écriture est la torche aussi qui permet de voir dans cette obscurité.
Cette œuvre tumultueuse, embrassant tout du chaos et des illuminations de nos mondes intérieurs, comme de celui de la nature, du cosmos, dans leurs infinis, son œuvre n'est pas reposante, elle n'a rien de rassurant. Mais n'est-ce pas par là, paradoxalement, que Victor Hugo est source d'enthousiasme, d'énergie et d'espérance ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que je ne pense pas que ce sont forcément les choses joyeuses qui réconfortent. Le réconfort en littérature vient très souvent de... tout simplement de l'acuité avec laquelle un écrivain saisit ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, ce que l'on ne comprend pas, ce qui nous tourmente ou nous procure du chagrin. Et c'est précisément en trouvant les mots qui parviennent à peindre ces zones-là qu'on trouve du réconfort. Ce qui ne veut pas dire qu'une littérature gaie n'a pas sa place, évidemment, dans nos vies, ou drôle. Moi, j'aime beaucoup les livres dans lesquels on trouve de l'humour. Et encore, on trouve de l'humour chez Hugo. Dans Le dernier jour d'un condamné, par exemple, à un moment donné, le condamné est dans la cellule et puis il regarde des choses qui sont écrites sur les murs. Et puis quelqu'un a gravé pour telle femme... avec amour pour la vie entière. Or, c'est un condamné à mort et Hugo met là dans la bouche de son narrateur, il ne s'engageait pas beaucoup. Et donc, on trouve même de l'humour chez lui. Et j'ai vraiment la certitude que cette façon d'affronter l'obscurité est pour moi ce qu'il y a de plus réconfortant en littérature.
On a souvent dit les visions de Victor Hugo manichéennes, on a moqué son lyrisme, sa démesure. N'est-il pas temps de déstatuer Victor Hugo pour mieux le redécouvrir ou pour beaucoup d'entre nous le découvrir ?
Alors, il y a toujours des gens pour rire ou railler de manière un peu cynique. Hugo, Camus plus tard au XXe siècle, ou d'autres écrivains. Très souvent, on s'aperçoit que ce sont des écrivains qui se sont engagés du côté quand même d'un humanisme, et donc on les critique, on se moque d'eux. Moi, je ne fais pas partie de ces critiques, mais d'ailleurs, je n'ai pas l'impression Si, Victor Hugo est bien entendu le grand écrivain avec des majuscules partout et une grande barbe et un portrait un peu solennel. Mais je crois qu'on peut continuer d'avoir une relation très intime. Moi, j'avoue que je n'ai pas tout lu de lui, loin de là. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Mais les universitaires peuvent faire des travaux critiques. On peut enseigner de différentes manières. Il me semble que pour continuer à le lire, il faut permettre, comme je le disais tout à l'heure, la redécouverte à travers différents de ces aspects. Et peut-être peut-être qu'il faut désacraliser de façon générale une certaine littérature du 19e siècle, dont on a le sentiment, quand on discute avec des jeunes gens aujourd'hui, qu'elle leur semble très éloignée et peut-être un peu trop... parfois un peu trop installée dans la naphtaline par ceux qui leur transmettent cette littérature-là. Mais les livres, quand on les ouvre, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout empreints ni de... Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de naphtaline, il y a juste un texte, des phrases et des êtres qui vivent et qui sont vivants. Et donc, il faut toujours revenir au texte et aux mots et pas forcément à la grande impression qui reste dans le sillage de quelqu'un.
Merci infiniment, Valérie Zenati, de nous avoir accordé de votre temps pour nous parler de Victor Hugo.
Merci à vous, bonne nuit.
Nous retrouverons Denis Podalydès dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette première nuit consacrée à Victor Hugo, après avoir écouté Eviradnus, dit par Alain Cuny, dans Les riches heures du poème légendaire, mise en onde Alain Barou et le Club d'essai, première diffusion en 1957 sur la chaîne nationale. Tête de Diable, un dessin de Victor Hugo avec Jean-Jacques Lebel et Gérard Audinet dans Les Regardeurs de Jean Deloisy en 2013. Et enfin, Anthologie sonore du conte, Claude Gueux par Richard Puydora et Alain Barou en 1967. La nuit, Victor Hugo se poursuit sur France Culture.